Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Un quinto de house.
Radio News en la tiparilla.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
C'est notre village. J'ai déplacé trois fois ma maison. Mais la mer nous détruit.
Déplacer sa maison trois fois parce que la mer détruit tout. C'est en Côte d'Ivoire que nous emmène l'escale sonore d'un jour dans le monde. Ce soir, vous verrez comment l'érosion fait des dégâts considérables et notamment auprès des pêcheurs sous les radars. Et Hélène Roussel, vous l'avez entendu en Colombie, à Bonn et en Finlande. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four avec ce plan de paix israélo-palestinien qui parle d'économie et sans les Palestiniens en plus. On verra si ça veut réellement dire quelque chose. Avant cela, c'est en Iran que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Cette escalade à coup sûr va devenir le fil rouge de l'été, l'étincelle sur le point de sauter, et puis non, et puis oui, en tout cas, depuis qu'une guerre a été frôlée à 15 minutes près, personne visiblement n'a baissé les bras, ni baissé le ton d'ailleurs. Bonsoir Bernard Ourcade.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cette région du monde. Nouvelle sanction, ça c'était hier, nouvelle escalade verbale aujourd'hui, donc une réponse de l'Iran qui est insultante et témoigne de son ignorance, ça c'est Trump qui parle, un comportement d'attardé mental, ça ce sont les Iraniens qui parlent. Formidable, on est quand même en train de parler potentiellement d'une guerre qui peut se mettre en place. Au fond, on est entré dans quelle phase, là? Est-ce qu'on est dans la phase de celui qui parle le plus fort, celui qui répond même pas mal? On est un peu dans cette phase un peu vaine, en fait, non?
Oui, tout à fait. On ne sait pas où on va. Et surtout, les principaux acteurs, c'est-à-dire les États-Unis, qui sont à l'initiative de cette crise, puis il faut le rappeler, ils n'ont pas suivi l'accord sur le nucléaire qu'ils ont eux-mêmes signé. Et donc, les Iraniens se retrouvent en situation extrêmement difficile. Et aujourd'hui, le plus grave, c'est que les États-Unis ne savent plus quoi faire. Et c'est un danger, effectivement, pour les Européens aussi. Il faut bien voir que la crise iranienne n'est pas que la crise de l'Iran. Il faut rappeler rapidement que lorsque Trump a dit aux entreprises « partez », les entreprises françaises notamment ont dû quitter l'Iran immédiatement sous peine de sanctions. Ça a coûté des milliers d'emplois en France. Et donc, ce qui se passe en Iran, du point de vue de la sécurité...
On se souvient qu'on a tenté de contourner, qu'on n'a pas su contourner, et donc on est parti.
On est parti, il n'y a pas le choix. Une entreprise, on vous dit, en Iran, vous faites un de chiffre d'affaires, aux États-Unis 100, il n'y a pas le choix. Donc, nous sommes directement impliqués par cette crise qui ne concerne pas que l'Iran. Et aujourd'hui, le plus grave, c'est que Trump, on se rend compte qu'il a échoué. En ce sens qu'il voulait que les Iraniens se mettent à genoux et acceptent des nouvelles négociations sur le plan en forçant l'économie. Or, l'économie iranienne résiste. Les Iraniens ont 100 milliards de dollars, et donc ils peuvent, au contrairement, grosso modo, fonctionner encore 2 ans tranquillement, sans trop de problèmes.
Enfin, ils peuvent fonctionner 2 ans, ça veut dire 2020. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire.
Exactement.
Ça veut dire que si Trump est réélu, on peut espérer que les choses se passeront différemment. S'il n'est pas réélu, ils sont à genoux, là, pour le coup.
Absolument. À genoux, mais l'Iran, comme ils disent très souvent, nous avons subi des agressions et des invasions dans l'histoire depuis les Arabes, les Mongols et les Turcs. Et donc, on a su la guerre Irak-Iran, c'était encore plus difficile. On peut subsister. Donc, économiquement, ça ne marche pas. Les Iraniens ne sont pas prêts à se mettre à genoux. Politiquement, ensuite, ils voulaient que le régime change en Iran. C'est le contraire qui se passe. Quand vous avez une situation de guerre, les plus durs, les plus radicaux disent il faut serrer les coudes et résister. Autrement dit, aujourd'hui en Iran, on voit les plus radicaux, les plus durs, les gardiens de la révolution notamment, être de plus en plus forts et éliminer les réformateurs. Donc échec politique.
Est-ce que vous avez le sentiment que la population, justement, elle aussi, est en train de se tourner, de prendre part, au fond, prendre parti pour son propre pays, donc se tourner, y compris vers les non-réformateurs, pour faire corps et lutter contre les États-Unis?
Hélas, les amis iraniens que je peux avoir me disent nous sommes obligés de soutenir un gouvernement qu'on n'aime pas. Alors que depuis quelque temps, avec Rouhani, avec l'espoir de l'ouverture économique, il y avait espoir que les choses changent de l'intérieur, tranquillement, 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, avec l'agression de Trump, il y a malgré tout une unité nationale qui fait que tout le monde défend, autrement dit politiquement, il y a un recours. Et puis le pire que dans l'échec de Trump, c'est l'échec militaire de l'autre jour. La plus grande puissance militaire du monde est amenée à reculer, à ne pas bombarder.
Alors est-ce qu'on sait au final quand même, est-ce qu'on sait réellement ce qui s'est passé? Effectivement, ça s'est joué dans un mouchoir. Il y a des bruits qui courent, il y en a certains qui disent qu'il y a eu des images finalement et que ce fameux drone était effectivement en territoire iranien et que donc on aurait pu le montrer, c'est pour ça qu'il recule. Il y a cette histoire de 120 civils qui auraient été tués, 150, mais au fond, est-ce qu'on en sait quelque chose? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé ce jour-là en fait?
Oui, les Iraniens, voyant un drone passer, n'ont pas résisté à l'envie de le détruire.
Mais il est bien passé en zone iranienne ou
pas? Je n'y étais pas, vous non plus, on n'en sait rien, le problème n'est pas tellement là, mais il faut savoir que face à l'Iran, le trou d'Hormuz, ça fait 50 km de large. Est-ce que c'est en Iran, en eau internationale, dans les couloirs sécurisés aux Émirats, vous ne pouvez c'est pas ça la question. Il y a une armada américaine devant vos frontières. Vous imaginez, devant Le Havre et Calais, vous avez une flotte énorme. Donc, le problème a été, les Américains veulent immédiatement rétorquer. normal, envoyer, détruire quelques sites, 3-4 sites. La réaction iranienne a été très claire. Ils ont fait passer le message par l'Irak, par l'ambassadeur de Suisse, qui est à la fois ambassadeur représentant la Suisse, l'Iran aux États-Unis, et les États-Unis en Iran, et l'Afghanistan, pour leur dire, si jamais vous touchez une cible, immédiatement, les quelques 10 000 soldats américains qui sont en Irak, encerclés par les milices chiites qui vous ont aidé à libérer Daesh, sont prêts à se retourner contre vous et ça fera au moins 300 boys de tués. En Afghanistan, les Américains sont partout. Et il y a des facilités pour que les troupes iraniennes, non pas iraniennes, les milices chiites qui sont en Afghanistan, fassent également 300 morts. Autrement dit, Trump a dû reculer pour ce fait-là, parce qu'il a dit, il n'y a plus aucun boys tué en Afghanistan, ou en Iran, ou à l'extérieur. Autrement dit, militairement, Trump a les pieds les moins liés, il ne peut pas faire la guerre, il le sait. Qu'il a échoué également de ce point de vue-là, et c'est grave.
Qui rapporte ça, Monsieur Hourcade? Qui raconte le déroulé de ce qui s'est passé avec ce fameux ambassadeur suisse?
Alors, quand on suit un peu les affaires, quand on voit des emails d'un peu partout, il y a des fake news de partout. Il y a des mensonges. Trump, de ce point de vue-là, est excellent. Mais des sources sérieuses montrent que l'Iran, et d'ailleurs, Pompeo l'a dit régulièrement, les Iraniens savent comment nous contacter. Les contacts entre l'Iran et le reste du monde sont très intenses depuis 15 jours. Et en cette crise, vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, essaie d'intervenir pour ne pas que ce drame se passe. Les Japonais y sont allés, les Allemands y sont allés. Emmanuel Bonn, qui est le nouveau conseiller diplomatique du président Macron, qui est un excellent connaisseur de la région, il était ambassadeur à Beyrouth, il est également en poste à Téhéran et à Riyad, était à Téhéran lundi, mardi dernier. Muriel de Sarnez, la présidente du groupe d'amitié France-Iran, était en Iran la semaine dernière aussi. Les Anglais y étaient avant-hier. Les Irakiens y sont tous les jours. Les Omanais également. Tout le monde dit arrêtons, revenons au sérieux.
Tout le monde dit arrêtons et en même temps les Iraniens et les Américains continuent sur cette même lancée-là alors que eux non plus au fond, et cet épisode finalement le prouve, n'ont absolument aucune intention d'aller jusqu'à la guerre au fond, ni l'un ni l'autre.
Ils ne peuvent pas y aller. Militairement, les Iraniens n'ont pas de capacité militaire face à l'armada américaine. Et les Américains, comme je venais de vous le dire, n'ont pas la capacité d'avoir un mort, politiquement.
Et n'ont pas envie, Donald Trump est en campagne, il l'est depuis quelques jours, une guerre en campagne électorale américaine, de toute façon ça rapporte rien, ça ne rapporte pas de voix. Est-ce que ce serait pas de toute façon une erreur politique majeure pour lui, à l'intérieur, pour sa réélection?
Oui, parce que une guerre victorieuse, fraîche et joyeuse en quelques jours, pourquoi pas?
Et encore que, souvenez-vous, 91, George Bush senior a gagné la guerre du Golfe en 91, perdu en 92.
Exactement. Et surtout aujourd'hui, où la politique d'Obama, qui était le retrait du Moyen-Orient, a été reprise par Trump et même accentuée par Trump. Autrement dit, il ne peut pas se permettre d'avoir des morts au Moyen-Orient. C'est négatif. Autrement dit, Trump fait les gros bras, dit « je suis le plus fort ». Je suis le lion, je suis le maître du monde, et il montre qu'il ne peut pas être le maître du monde, et un pays aussi faible militairement que l'Iran est capable de tenir à la gorge. Et ça qui est dangereux, parce que les États-Unis sont la puissance nucléaire et militaire qui nous protège à nous, Européens aussi, nous étions dans une alliance. Et quand on voit le plus grand pays du monde, qui est notre propre allié, notre ami depuis longtemps, qui est incapable politiquement, économiquement, en matière de droits de l'homme ou militairement de tenir son rang, la grande puissance américaine est en train de se fragiliser. C'est inquiétant pour nous qui sommes les alliés des Américains.
Est-ce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle, parce qu'on commence à le lire ici et là, une guerre par accident? C'est arrivé dans l'histoire, il suffit d'un personnage tué ici et là, on sait bien que le démarrage après tout des guerres mondiales, c'est aussi par là que ça passe. Est-ce qu'il peut y avoir ça, une guerre par accident?
Tout à fait, Sarajevo en 1914, c'était un peu ça, une stupidité d'un nationaliste serbe. C'est pour ça que c'est dangereux. Et que tout le monde essaie de dire, avec une armada comme les États-Unis l'ont, devant les Iraniens, l'Iran qui est un pays qui avait un espoir immense en 2015, il faut se souvenir, l'immense espoir de la société iranienne qui était au congélateur depuis 35 ans, de pouvoir enfin respirer. Et donc aujourd'hui, douche froide, on peut plus rien faire. On est obligé de soutenir les plus conservateurs. C'est dramatique pour ce pays. Donc les gens sont fâchés, sont furieux de cette situation de désespoir dans laquelle ils sont. Donc ils sont prêts, et certains en Iran sont prêts à dire, puisque perdu pour perdu, autant sauver l'honneur. Et donc il y a beaucoup de dangers, d'autant plus qu'en Israël il y a également la volonté qu'il n'y ait non pas une guerre, parce que l'Israël ne veut pas que l'Iran soit écrasé. Israël a besoin d'un ennemi. Les Émirats et l'Arabie Saoudite ont besoin en politique intérieure de montrer que l'Iran est le grand méchant. Donc ils veulent maintenir l'Iran en situation de faiblesse. Mais ils ont des armements considérables de tous les côtés. Et donc il y a un risque d'une étincelle qui effectivement déséquilibre tout.
Quel est le rôle? On dit que c'est évidemment pas Trump qui est à la manœuvre dans ce genre d'exercice, mais c'est plutôt Bolton et Pompeo qui cherchent la faute, en fait. Est-ce que le recul, malgré tout, c'est aussi Bolton et Pompeo, ou de ce que vous savez, il y a d'autres mains pour reculer celle de Trump quand on risque d'arriver au pire, en fait?
J'ai eu le triste privilège de rencontrer Bolton une fois. Ce personnage est un monstre dangereux, c'est un idéologue pur, hein, qui ne tient pas compte des réalités. Heureusement, il y a aux États-Unis une armée solide qui a fait l'Afghanistan avec des difficultés, 40 ans de guerre vaincue, enfin pas de victoire, en Irak également. Les militaires américains ont l'expérience du drame et de la mort. Et c'est eux peut-être qui ont fait pencher la balance l'autre jour. Quand les troupes terrestres qui sont coincées en Irak ont dit au président Trump, « Monsieur le Président, vous faites cela avec Monsieur Bolton, c'est d'accord, mais ça va vous coûter 300 soldats fantassins tués en Irak et autant en Afghanistan. Je suis le commandant en chef, je ne suis j'extrapole, des troupes terrestres américaines. Les militaires sont des gens sérieux, et quand il y a une guerre, c'est eux qui la font. Donc ils ont quelques moyens de faire passer le message aux hommes politiques, aux idéologues.
Alors qu'est-ce qu'on a, cela dit, fermé comme porte, Bernard Ourcade? Parce que vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de pays autour essayent de calmer le jeu, les Nations Unies aussi, il va y avoir le G20 au Japon prochainement, Shinzo Abe va probablement remettre une couche puisque Trump est là aussi, Emmanuel Macron également. Quelle est la porte qui reste ouverte? Y a-t-il encore une porte de négociation? Parce que, pardon, et je veux pas faire de comparaisons qui n'en sont pas, mais cet échange de noms d'oiseaux me rappelle aussi les échange de noms d'oiseaux au fond que Trump avait avec le président nord-coréen il n'y a pas si longtemps, et puis désormais ce sont les meilleurs amis du monde. Donc qu'est-ce qui reste comme port de négociation en
fait? La différence avec la Corée, c'est que la Corée du Nord était isolée, et c'est un petit pays bloqué. L'Iran est un pays important, avec un potentiel gigantesque, une société dynamique, et qui venait de signer un accord international validé par l'ONU. Donc...
Mais ça dit juste qu'il peut y avoir un changement de logiciel ou pas en fait? Peut-il y avoir un changement de logiciel?
Oui, il peut y être, mais il faut une volonté politique. La Chine et la Russie sont des sleeping partners. Ils vont pas trop intervenir. Ils veulent que ça se calme, mais ils n'ont pas l'envie d'être actifs. Par contre, le président Macron et les Européens ont été très actifs dans le dossier nucléaire. C'est eux qui ont été à la manœuvre, même si ensuite les Américains sont venus. Et on sait que Emmanuel Macron, lorsque Trump a dit, il a déchiré l'accord sur le nucléaire, il était le premier à téléphoner au président iranien pour lui dire, on va faire quelque chose. Et Rouhani lui dit, venez donc me voir. Et le voyage de Macron en Iran était programmé l'an dernier. Il ne s'est pas déroulé. Pourquoi? Parce que, on regarde, les États-Unis sont nos amis, sont nos partenaires, et donc il n'y a pas de vraie volonté politique. Qu'est-ce que je gagnerais, moi, Macron ou Madame Merkel, ou s'il y a quelqu'un en Grande-Bretagne, à aller pour faire quelque chose pour l'Iran? Je crois personnellement que nos dirigeants ne mesurent pas les risques qu'il y a et le gâchis que ça représente. Charlie Hebdo et Bataclan, ce n'est pas une plaisanterie. Bon, si effectivement l'Iran est écrasé, ça va entraîner une surpuissance des forces djihadistes ici et là, que l'Iran est le seul capable de contrôler. Et ma foi, j'ai pas envie de Bataclan numéro 2.
Bernard Ourcade, il y a la fameuse deadline qui concerne le nucléaire iranien. Ça va être donc le 6 juillet, le 6 ou le 7 juillet, où l'Iran considérera qu'il est désengagé de ses obligations. Et il a déjà dit aujourd'hui, à partir du 7 juillet, il réduira résolument ses engagements pris dans le cadre de l'accord. Le pays cessera de respecter les restrictions consenties sur le degré d'enrichissement de l'uranium, etc. Donc, quelle est la réponse que les États-Unis peuvent faire là à cet ultimatum qui va expirer dans une semaine?
La réponse est très simple, que les États-Unis respectent leurs paroles. Ils ont signé un accord international. Quand vous achetez quelque chose et vous ne payez pas, c'est pas normal. Le marchand qui vous a vendu le produit que vous avez emporté n'est pas d'accord.
Certes, mais ils l'ont déchiré, cet accord, les Américains. Donc,
on peut y revenir. On peut y revenir. On peut le contraindre, les États-Unis, à revenir en disant, Monsieur le Président Trump, vous êtes un président sérieux. Vous risquez de mettre en danger la vie du monde, y compris de vos alliés.
On peut le contraindre. On, c'est qui? C'est nous,
les Européens.
C'est qui?
Les Européens.
On peut faire ça.
Il faut une volonté politique. Est-ce qu'elle existe? Point d'interrogation.
Mais on a bien compris que la volonté économique n'était pas suffisante, même si, comme vous l'avez souligné, on préfère faire commerce avec les Américains parce que ça rapporte beaucoup plus et par ailleurs économiquement ça a du sens. Donc pourquoi est-ce que subitement là-dessus on écouterait les Européens, on écouterait Trump, Macron ou un autre?
Parce que la guerre c'est autre chose que l'économie. Que PSA soit obligé de rentrer, d'abandonner l'Iran, c'est une chose. S'il y a effectivement une guerre dans le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'armes, c'est Daesh qui peut reprendre du poil de la bête. C'est donc en Europe, on sait le bienfait de Daesh en Europe. Est-ce qu'on peut se permettre encore cela? Et donc, le fait que les États-Unis aient déchiré un accord qui permettait une stabilisation progressive du Moyen-Orient est un crime contre la sécurité. Et donc, les Américains sont des gens sérieux. Il y a beaucoup de gens sérieux aux États-Unis, quand même. Donc, essayons d'avancer de ce point de vue-là, plutôt que de dire aux Américains, vous êtes nos amis éternels depuis Lafayette.
Vous êtes bien optimiste, Bernard Ourcade. Si on arrive à rouvrir le dossier du nucléaire iranien, honnêtement.
Oui, les Iraniens le remettent sur la table. Les Iraniens remettent sur la table. Les Iraniens disent, quand nous avions une bombe au congélateur, ou presque, on nous a écoutés. Résultat, les radicaux sont là au pouvoir en Iran, ils disent refaisons le même schéma, relançons le nucléaire et ce jour-là on nous écoutera.
Et vous pensez qu'au fond de sa tête, c'est aussi ce que veut Donald Trump, alors parce qu'il voulait les rasseoir pour refaire intégralement cet accord. Oui, au nom de quel est l'intérêt des Iraniens de refaire, de renégocier un accord qu'ils ont signé de toute façon ?
Aucun. Les Iraniens cherchent à maintenir l'accord de 2015, à revenir dessus et à trouver les moyens de contraindre que la communauté internationale, l'ONU, les Chinois, les Russes et les Européens contraignent d'une façon ou d'une autre, avec les formes, les diplomates, c'est leur métier de trouver des moyens que les États-Unis reviennent à la raison. Et ceci, on peut espérer. Avec Trump, peut-être pas. Avec d'autres, peut-être. Mais vous savez, Trump est très pragmatique. Il a dit aux Irakiens, vous n'avez pas le droit d'importer du pétrole et du gaz et d'électricité iranienne. Impossible. Ils ont dit, mais par contre, si vous donnez à ExxonMobil les puits de pétrole de Kirkuk, là, je vous donnerai une dérogation. Les Iraniens ont obtenu une dérogation, ils ont 3 mois de sursis. Le business, ça marche avec Trump.
Une dernière chose, justement, puisqu'on parle business, la dernière sanction, celle d'hier lundi, qui était directement dirigée au fond vers Ali Khamenei, est-ce qu'elle a vraiment du sens, en fait? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'extrêmement symbolique, qui ne touche pas plus les Iraniens au fond, mais qui vise les gardiens de la Révolution?
Même pas gardien de la Révolution, ça vise l'essence même de l'État iranien, on est d'accord ou pas d'accord, mais quand vous visez directement le chef de l'État, vous l'insultez, ça coupe tous les ponts. Et les Américains veulent couper tous les ponts pour faire pression encore plus.
Donc c'est juste un symbole qui dit, de toute façon, il n'y a pas de porte ouverte de négociation possible.
Je n'en veux pas, mais on sait très bien qu'aux États-Unis, les négociants sont assez nombreux, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont toujours dans une impasse, et l'échec militaire de l'autre jour a marqué des points. Et donc, tout le monde sait très bien qu'on est aujourd'hui au bord du gouffre. Et donc, c'est un élément, cette urgence, est un élément d'optimisme, en quelque sorte.
Une toute dernière chose, donc, effectivement, vous le disiez, il y a eu l'échec, c'est comme ça que vous le qualifiez, en tout cas, de Donald Trump, la semaine dernière, qui recule 10 minutes avant l'explosion. Il y a cette échéance, la deadline, donc, qui est le 6 juillet prochain. Qui a la main, à votre avis ? Qui a les cartes, là, pour l'instant ?
La carte est entre les mains des Américains, mais les Iraniens ont beaucoup de cartes. C'est la guerre de résistance, et la résistance iranienne est incommensurable. Les Iraniens ont l'art de résister, de durer, et donc ça peut durer très longtemps comme cela.
Résistance et résilience, vraisemblablement.
Une résilience très importante. La société, mais cela dit, en a marre. Les Iraniens voudraient bien vivre aujourd'hui comme ils ont le droit de vivre.
Et ça sera l'occasion de nous revoir. Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Côte d'Ivoire où l'érosion mange littéralement des habitations, mais les pêcheurs notamment ne veulent pas quitter leur terre, ils s'accrochent, c'est ce que vous entendrez dans l'escale sonore ce soir sous les radars, et Hélène Roussel qui nous parlera notamment de latin dans la radio publique finlandaise. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous allez nous parler de ce plan de paix qui se fabrique au Bahreïn sans les Palestiniens notamment.
Oui, cette conférence s'appelle De la paix à la prospérité. Alors déjà la prospérité, ça sera compliqué, mais alors la paix, je ne vous en parle même pas.
Allez. À tout de suite, le tour de la planète. Ce n'est pas fini, loin de là. Voici Balthazar sur France Inter. I'm never gonna let you down again. Et c'est dans la playlist de France Inter. Friday late night, I rest. The soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man. I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another one that's been around. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder,
could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Or can we call it quits? And is this what I need to take away? This checkmate in my mind. So if you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around,
d'été, I'm never gonna let you down again, signé Balthazar sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Erasmus Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Hélène Roussel, sous les radars. Hélène, nous partons pour la Colombie. Tout de suite, la Colombie qui a déclaré la guerre aux grossesses précoces.
Et oui, il faut dire que dans ce pays, 20% des bébés ont une maman qui a entre 10 et 19 ans. Alors, savoir comment se protéger, ça c'est la base. Il y a bien sûr des cours d'éducation sexuelle, mais ce n'est pas tout. À Caldas, près de Medellín, pour réduire le nombre de grossesses chez les ados, les collégiens, filles et garçons, c'est bien de le souligner, doivent s'occuper d'un bébé robot pendant tout un week-end. Je vous vois venir, vous allez me demander, ça ressemble à quoi?
Un bébé robot, ça ressemble à quoi?
Eh bien, un bébé de 2 mois, plus vrai que nature. Un baigneur en caoutchouc équipé d'un dispositif électrique. Un bébé qui crie, qui pleure, qui a besoin de soins, de câlins, même la nuit. Quel impact sur les jeunes? Je vous propose d'écouter la réponse avec Susana, 13 ans, au micro de France 24.
Cette expérience a été très difficile, parce que ce n'est pas facile d'être mère. C'est quelque chose. C'est horrible, horrible. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Et vous devez toujours en prendre soin.
Eh ben oui, un bébé, c'est pas de répit, pas de pitié. Hein.
On peut pas le rendre marchand.
Et visiblement, la stratégie fonctionne. Miguel, un autre ado, raconte que pour lui aussi, l'expérience a été synonyme de sacrifice. Il a dû rester chez lui, s'occuper du bébé, quand ses copains, eux, jouaient au foot. Et le nombre de grossesses précoces a diminué, selon la ville de Caldas. On est passé en un an de 186 à 140, c'est déjà ça. Donc un bébé robot, et hop, ça vous passe l'envie. Hélas, c'est pas si simple. L'éducation infantile virtuelle, c'est son nom savant, a déjà été testée dans d'autres pays. Et selon la revue scientifique de Lancet, il peut aussi avoir l'effet inverse. Il y a des jeunes qui peuvent penser qu'un vrai bébé serait une compagnie. Dans cette ville de Colombie, le bébé robot n'est qu'un outil parmi d'autres. Il y a aussi des ateliers et même un travail en famille. Encore faudrait-il que tous les parents acceptent que la sexualité ne soit plus sujet tabou.
Ça commence peut-être par là. Ouais. Alors que nous vivons une canicule donc précoce en France, tout le monde évidemment fait le lien avec le réchauffement climatique.
Et ça tombe bien, puisqu'il est question de ça en ce moment à Bonn, en Allemagne, où on prépare la COP25 qui se tiendra au Chili au mois de décembre. Selon le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il faut impérativement limiter la hausse des températures, pas plus d'1,5 degré, ce qui veut dire réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et réduire le recours aux énergies fossiles. C'était aussi la conclusion, on s'en souvient, de l'accord de Paris. Oui, mais voilà, quand ce ne sont pas les Américains ou les Russes qui freinent, ce sont les Saoudiens qui mettent des bâtons dans les roues. À Bonn, l'Arabie Saoudite met déjà la pression. Le premier exportateur mondial de pétrole refuse les références à la réduction des émissions de CO2. Pas assez de preuves, dit Riyad. On peut quand même rappeler que ce rapport s'appuie sur environ 6000 références scientifiques, on se demande bien ce qu'il leur faut, et on voit mal à quoi vont bien servir les pétrodollars si la planète est en feu.
Hélène, terminons donc en latin.
Eh ben oui, incredibly, Fabienne. Ah bah, en Finlande, la radio publique propose toutes les semaines un résumé de l'info, 5 minutes, en latin. 30 ans que ça dure quand même, cette émission Nunti Latini sur la radio Yle, je ne sais pas si je prononce très bien.
Vous allez le latin, ça, vous êtes super.
Ah là, je suis super, vous allez voir. Vous allez me dire, mais qui écoute? Bah, le Vatican, déjà. Hein. Et puis quand même 40 000 auditeurs fidèles, en live ou en podcast. Bon, les infos en latin, je vous l'accorde, faut s'accrocher quand même.
Président russe, Vladimir Poutine. Et Xi Jinping, presidents sinarum, cum plures pactiones commerciales, inforo commerciali petropolitano fecerum.
Ça ressemble un petit peu à l'italien quand même.
Oui, alors j'allais dire de l'espagnol, c'est de l'espagnol avec un accent finlandais qui en fait est du latin.
Bon, c'est vrai qu'à part Poutine et Xi Jinping, on ne comprend pas grand-chose. Bref, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce que cette émission va s'arrêter. Post ferias aestivas non continua buntur. Vous avez vu, j'ai bien bossé. Hein.
C'est super.
Ça veut dire que l'émission ne reprendra pas après les vacances d'été.
Attendez, est-ce qu'il y a un Google Translate en latin aussi? D'accord. Non, c'est tout.
Pas de relève, pas de jeune présentateur bilingue en latin pour reprendre le flambeau, comme c'est bizarre. Mais qu'ont-ils ces Finlandais avec le latin? On dirait une vraie passion. Parce que c'est aussi en Finlande, figurez-vous, qu'on trouve cet universitaire, fan d'Elvis Presley, Dr. Hammond. Il a fait traduire tout le répertoire du King en latin et il le chante sur scène, si c'est vrai.
Cori fideli, non amavo que teras, vita de te sola.
Ouais. Mais les nuits sont longues en Finlande.
C'est peut-être
faut
pour
le dire.
Ça. Don't be cool. Bah moi, je trouve pas ça si mal. C'est toujours mieux que Rosa, Rosa, Rosa et tout ça.
Rosa. Vous savez qu'il y a un Astérix en latin. Iter Gallicum. Bah voilà. Délirant, testis romanis. Ils sont fous, ces Romains. Partoutatis. Allez, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Côte d'Ivoire que s'arrête l'escale sonore d'un jour dans le monde ce soir. Vous savez ce que c'est que l'érosion, évidemment, mais en fait, vous ne savez pas ce que c'est. Ni les conséquences très concrètes que ça peut avoir, mais vous allez le découvrir tout de suite. Bonsoir Amandine Réau.
Bonsoir.
Avec vous depuis Abidjan, vous vous êtes rendu en fait à Laou Kamda, pardon, un village côtier à une centaine de kilomètres d'Abidjan, donc qui est aussi un ancien comptoir colonial français. Là-bas, les habitants subissent l'érosion marine depuis un siècle. Une grande partie de la ville a disparu sous les eaux et le phénomène aujourd'hui s'accélère. Les habitants et surtout les pêcheurs s'accrochent à leurs terres. Ils attendent des travaux d'aménagement qui tardent à venir, Amandine.
Mesdames et messieurs, nous assistons donc à l'arrivée du chef qui va être installé tout à l'heure.
De grands chapiteaux, des centaines de chaises, des fanfares dans les rues. Depuis l'aube, le village de Laou Panda s'agite. Les habitants sortent leurs tenues de fête, ensemble en wax pour les dames, costumes ou habits traditionnels pour les hommes. Ce jour-là, le village intronise son nouveau chef, Augustin Yaou, après 4 ans sans gouvernance. De sa part, peu de mots, aucun discours, mais une priorité, accélérer la lutte contre l'érosion galopante. Les 8000 habitants ont désormais un nouvel interlocuteur auprès des autorités et retrouvent espoir.
Nous avons la joie, vraiment, parce qu'on a trop souffert. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier.
C'est l'espoir qui renaît. On a les lueurs d'espoir. C'est un chef qui rassemble, c'est celui qui sait défendre les populations. C'est aussi un chef qui incarne l'institution de l'État. Donc vraiment, nous sommes vraiment confiants, nous sommes heureux.
La cérémonie dure toute la matinée, la fête jusqu'au bout de la nuit dans ce village de pêcheurs à 120 km d'Abidjan, accessible uniquement en pirogue. Laou Panda est situé entre l'embouchure du fleuve Bandama, la lagune et la mer. Le barrage électrique construit dans les années 70 en amont a ralenti le débit du fleuve. Conséquence, l'océan ronge la côte, 2 mètres en moyenne chaque année, sans compter les grandes avancées. Large de 2 km il y a un siècle, le village n'est plus qu'un isthme de 200 mètres aujourd'hui.
Le problème de Grand Laou, c'est un problème de un manque d'aménagement qu'on essaie de faire passer pour un problème écologique. Non, nous ne sommes pas d'accord.
Antoine Dieket, natif du village et enseignant-chercheur en géographie à l'université Oufouette-Boigny d'Abidjan, accuse les autorités d'avoir abandonné cet ancien comptoir colonial après le déplacement de la ville à l'intérieur des terres en 1973.
L'embouchure a rasé toute une ville. C'est grave. une ville, et non des moindres, c'est la ville historique de Grand Lahou, qui a été implantée à partir de 1890. C'est la troisième ville, le troisième poste colonial français. Donc c'est toute la mémoire historique de la partie coloniale qui est partie. Il eût fallu stopper l'embouchure à un moment donné, ce qui n'a pas été fait. Le déplacement, le transfert de la ville à des services à 18 km à l'intérieur des terres a peut-être provoqué, précipité, parce qu'il y a eu un abandon. Voilà. C'est le terme, il y a eu un abandon de la cité. Et ce qui fait que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entretenir.
Il faudrait construire une digue car l'embouchure s'élargit à toute vitesse. Ces derniers mois, une centaine d'habitants se sont déplacés. Aujourd'hui, des débris de maisons jonchent le sol, du bambou et des feuilles de palmier, car il est interdit de construire des bâtiments en dur depuis presque un siècle. Philomène, 42 ans, vendeuse de poissons, a vu ses voisins quitter le village.
C'est notre village, ça. C'est en train de détruire par la mer, ça nous fait très mal. J'ai déplacé trois fois ma maison. Les vagues viennent, l'eau rentre dans nos maisons, on est couché, les maisons se cassent et puis on déménage.
La nuit ?
Oui, la nuit. C'est ici qui est notre village, dont on veut les aides pour qu'on puisse rester dans notre village.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce village ?
Tout, presque tout. On a la mer, on a la lagune, on a des terrains, des champs. Donc on a presque tout, mais la mer nous détruit.
Et la mer commence même à détruire le lieu le plus important pour les villageois, le cimetière où sont enterrés leurs ancêtres. En janvier, une vingtaine de tombes ont été englouties. Albert, 64 ans, est très ému.
Le cimetière a été vraiment touché. Ça c'est vraiment malheureux, quoi. Le gouvernement a dépêché le ministère de l'Environnement qui est venu voir l'état des lieux. Ils ont dit qu'ils allaient un peu aider, voir comment enlever, ils vont envoyer des médecins, des gens qui s'y connaissent pour enlever les corps là, pour qu'on puisse envoyer ça dans un autre cimetière. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien. Chacun vient avec son mortier là, et puis bon, ben, il enlève son corps et ça va enterrer l'autre côté.
Dans le cadre du projet littoral Waka, la Banque mondiale a prêté 24 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'érosion. Les autorités se rendent régulièrement sur la presqu'île. Il est question de déplacer en priorité le cimetière et les maisons les plus vulnérables. Mais pas d'action concrète pour l'instant. Patience, rétorque Souleymane Bamba, préfet de Grand Lahou.
C'est un problème qui préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. Voilà, le problème de l'érosion concernant ce village, qui est un village très important pour le département.
Qu'est-ce que l'État va pouvoir faire rapidement pour tous ces habitants qui perdent leur maison plusieurs fois ?
Dans le cadre du projet Waka, il est question d'arrêter cette érosion côtière.
Mais quand ?
Oui, mais le projet commencera incessamment. Nous avons déjà lancé le projet, c'était en décembre passé, en décembre 2018. Bon, vous savez, les grands projets démarrent difficilement. Voilà, c'est un très grand projet, il faut faire preuve de patience.
En attendant une solution durable, les villageois vivent dans la peur de tout perdre, mais s'accrochent à ce mode de vie paisible entre océans et mangroves, sans véhicules motorisés, presque hors du temps.
Amandine Réau pour le reportage en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Eric Clapton est sur France Inter. Lay Down Sally. À tout de suite.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you.
about the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Valide, Leydon Sally, signé Eric Clapton, dans Un jour dans le monde et sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, Jean-Marc, Bahreïn dans le golfe Persique, accueille donc depuis cet après-midi une conférence qui se veut la première étape d'un plan de paix américain sur la question israélo-palestinienne. Un plan de paix présenté par Washington comme le deal du siècle, toujours en nuance. Le petit souci, c'est que cette conférence de paix n'a pas la paix pour objectif et c'est votre monde à l'envers.
À ça, là encore, le titre officiel est séduisant et sans nuance, pour reprendre votre formule, de la paix à la prospérité. Voilà l'intitulé de cet atelier de travail de Bahreïn présenté par l'administration de Trump comme donc le premier pas vers le règlement du conflit israélo-palestinien, rien de moins. Bon, d'abord, ce titre, il est un peu écrit à l'envers, puisque la démarche américaine pilotée par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, serait mieux résumée en sens inverse, de la prospérité à la paix, puisque tout le propos, c'est de commencer avec un accord de développement économique en misant sur le fait que le règlement politique, donc la paix, en découleront. Sur le papier, d'abord, on se dit pourquoi pas, d'autant que jusqu'à présent, tout a échoué. Et dans le document de plus de 130 pages dévoilé par l'administration américaine, il y a des chiffres qui sonnent bien aux oreilles. 50 milliards de dollars d'investissement, 44 milliards d'euros pour aider les Palestiniens, plus de la moitié pour les populations de Gaza et de Cisjordanie, le reste pour les pays voisins, la Jordanie, le Liban, l'Égypte, où vivent la plupart des réfugiés palestiniens, on le sait. Le plan américain fait miroiter des projets comme si on était à Disneyland, 1 million d'emplois, une réduction de moitié de la pauvreté, des routes, une ligne de chemin de fer, des centrales électriques, des centres commerciaux, etc. Mmh. Vu que l'autorité palestinienne n'a plus le moindre sou en poche, elle est au bord de la cessation de paiement, tout ça peut paraître séduisant, la prospérité au bout du chemin.
Et donc, la paix ?
La paix, elle n'est pas au programme. Ce n'est pas l'objectif. C'est précisément pour cette raison que les Palestiniens ont refusé de se rendre à cette conférence. Ils n'ont d'ailleurs même pas été conviés, ça permet d'éviter un refus, c'est plus pratique. L'un des dirigeants de l'autorité palestinienne, Jibril Rajoub, nous disait il y a quelques jours, ce raisonnement américain, c'est une inversion des rôles, un piège sur le mode « renoncez à vos prétentions politiques, moyennant quoi nous vous aiderons financièrement ». Et de fait, le plan n'aborde aucune question politique. Le statut de Jérusalem, la création d'un État palestinien ou à tout le moins la libre circulation sur le sol israélien, tout cela est remis à plus tard, au mois de novembre au mieux. Ce raisonnement de promoteur immobilier à la Trump, qui fait fi de tous les symboles, est évidemment inacceptable pour les Palestiniens. Mais peu importe, parce que la paix n'est pas recherchée. Washington mise sur le fait que la cause palestinienne n'intéresse plus grand monde et que les dirigeants palestiniens, en refusant ce plan, se retrouveront avec le mauvais rôle. La paix ne sera donc pas au rendez-vous de cette conférence. Ce n'est pas le but.
Mais donc, c'est quoi le but si c'est pas la paix ?
Alors, il y a au moins deux autres objectifs. Le premier, c'est de filer un coup de main tout simplement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans une passe difficile, il n'a pas pu constituer de gouvernement. De nouvelles élections sont donc convoquées en septembre en Israël. Donald Trump a déjà tweeté qu'il souhaite le succès de Netanyahou. Et les négociateurs américains, Jared Kushner, mais aussi Jason Greenblatt, David Friedman, sont tous extrêmement proches de la droite dure israélienne, dont ils partagent les positions, Jérusalem comme capitale, occupation du plateau du Golan, annexion de la Cisjordanie, etc. Au passage, le président américain y voit aussi un intérêt sur sa propre scène politique intérieure, satisfaire l'électorat des chrétiens évangéliques, un Américain sur quatre, dont le vice-président Mike Pence. Alors vous allez me dire, quel est le lien ? Eh bien, les évangéliques jugent prioritaire que l'État juif d'Israël soit favorisé, parce que selon eux, c'est la condition première du retour de Jésus sur Terre.
Donc, premier but, ok. Et le second ?
Le second, c'est de profiter de cette réunion au Bahreïn pour sceller une alliance contre l'Iran. Et l'Iran, c'est la priorité de l'administration de Trump, ça n'a échappé à personne, je crois. Cette alliance, c'est celle des pays du Golfe et d'Israël. Plusieurs diplomates israéliens reconnaissent d'ailleurs désormais l'existence de cet axe qui est resté longtemps tabou. La conférence de Manama dans le Golfe vise donc aussi à rapprocher ses partenaires dans une coalition anti-iranienne. L'Arabie Saoudite et les Émirats sont d'ailleurs bien représentés à cette conférence de Manama. Au passage, c'est aussi une façon pour Washington de se désengager un peu de la région en confiant les affaires à ses alliés régionaux. L'absence des dirigeants palestiniens à Manama n'a donc strictement aucune importance, puisque ce soi-disant deal du siècle sur le dossier israélo-palestinien n'a strictement rien à voir avec la paix en Palestine. Il suffit juste de le savoir.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, sur France Inter et tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et puis juste avant, bien sûr, le journal de Sébastien Paour. Ne bougez pas, on s'occupe de tout.